France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Delphine Chaudaleux. Alors je partais avec des idées reçues assez arrêtées sur la romance, entre littérature stéréotypée, un peu conservatrice, disqualifiée d'avance, presque honteuse quelque part, et une littérature qui nécessairement renforce les normes de genre. Et j'ai été surpris, finalement même très surpris, par la complexité que l'ouvrage révèle.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La lecture de romance, aujourd'hui dans votre book club, regardée au prisme d'un ouvrage paru en 1984 aux États-Unis. Ce milieu des années 80 est un moment de bascule historique pour la condition féminine de la classe moyenne américaine, pour le dire vite, qui quitte un modèle hégémonique de l'homme travaillant pour rapporter le seul revenu du foyer pour épouser les aspirations émancipatrices portées par le féminisme des années 70, pour le dire vite. La traduction de ce best-seller des sciences sociales anglo-américaines vers le français est l'occasion d'écouter comment l'on pensait la lecture de ce genre qui a totalement explosé depuis, quelle méthodologie est encore utilisée pour enquêter auprès des lectrices, quelle façon de traiter la grande question d'une lecture émancipatrice ou au contraire qui renforcerait la culture patriarcale et les représentations qui la sous-tendent. Bref, l'universitaire Delphine Chaudaleux, qui a participé à ce grand projet de traduction, est notre invitée pour ouvrir cette boîte de dialogue et de recherche. On est ensemble pour une heure, bienvenue tout le monde dans le Book Club. Lire la romance, femme, patriarcat et littérature populaire, c'est le titre de cette enquête de Janice A. Radway, parue donc initialement en 1984, traduit vers le français par Sarah-Louise Rayard, sous la double direction scientifique de Marine Lambolaise et la vôtre. Delphine Chaudaleux, bonjour, bienvenue dans le Book Club.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Technologie de Compiègne. Vous êtes spécialiste des médias, du genre et des pratiques culturelles populaires féminines. On est donc tout à fait au cœur de votre champ de recherche. Vous menez d'ailleurs actuellement vous-même une étude sur la lecture de romance, mais cette fois-ci au contemporain et plutôt dans un contexte francophone 21e siècle. Peut-être dans un premier temps, il faut que nous définissions ce qu'on appelle la romance, ce que notre auditeur qu'on retrouvera tout à l'heure appelle la romance, dans les années 80 au milieu des États-Unis et peut-être aujourd'hui ce genre ultra prisé en librairie.
Oui, la romance, en fait, c'est un genre littéraire spécifique qu'il faut d'ailleurs distinguer du roman d'amour, le roman d'amour qu'on retrouve sous la plume de plein d'écrivains. À la différence du roman d'amour, la romance, c'est un genre qui a ses codes bien spécifiques, qui date en fait, enfin on date l'apparition de la romance en fait au XVIIe siècle, avec des développements importants plus tardifs, XVIIIe, XIXe, et c'est un genre qui décolle vraiment, disons, avec l'industrialisation des processus éditoriaux. Et donc les grands codes de la romance, c'est le récit d'une histoire d'amour qui se focalise sur le développement de l'histoire d'amour.
Donc plutôt prise à ses débuts, à ses balbutiements, et ensuite, qu'est-ce que ça devient ?
Voilà, plutôt dans cette chronologie-là. Du point de vue féminin, c'est toujours l'héroïne qui raconte, qui est la narratrice en fait du récit. En tout cas, son point de vue doit être privilégié. Et puis, l'autre ingrédient narratif indispensable, c'est la fin heureuse, le happy end. Voilà, il n'y a pas de romance sans happy end. Alors ça, visiblement, c'est un peu en train de changer avec la romance très contemporaine, qui est en train de remettre de rebattre ces cartes-là. Traditionnellement, voilà, c'est, disons, les trois composantes essentielles, on va dire, du genre.
En tout cas, pour ce qu'on va évoquer aujourd'hui des lectrices américaines du milieu des années 80, de la romance publiée aux États-Unis, c'est vraiment ce schéma-là qu'il faut avoir en tête. Est-ce que ça a toujours été pris, tout ce style, ce genre littéraire, sous le grand champ de la littérature populaire ?
Oui, c'est vraiment un genre totalement intrinsèquement lié à la littérature populaire dans ses modes de fabrication et dans ses modes de diffusion. C'est vraiment à partir du moment où on industrialise les processus d'édition que ces genres littéraires, pas que la romance d'ailleurs, naissent et trouvent leur public. C'est aussi le cas du policier, c'est aussi le cas du roman à mystère, etc. etc. C'est vraiment lié à voilà à l'industrialisation qu'on date au 19e siècle, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc la romance, elle, comme tous ces genres littéraires populaires, elle est complètement liée à cette histoire de la littérature populaire, à la différence d'autres genres littéraires comme le polar ou le roman à mystère. La romance, elle est toujours aujourd'hui, elle demeure extrêmement illégitime. C'est-à-dire que contrairement à la science-fiction par exemple ou au polar, il y a pas de thèse ou très très peu qui sont soutenues sur la romance, il y a pas de colloque universitaire, il y a très peu d'écrits parce que c'est le plus féminin des genres populaires et donc cette dimension féminine, elle marque vraiment l'illégitimité de ce genre.
C'est aussi ce qui fait de l'apparition de cet essai en sciences sociales en 1984, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, un objet important du point de vue de la recherche, parce qu'il est assez rare à vous écouter. Quand on parle de romance aujourd'hui, quand on parle de la manière massive dont il se vend en librairie en France et dont il s'emprunte en bibliothèque et dont il se discute dans les cours des lycées, des facs, mais à bien d'autres endroits ailleurs, on parle du même genre de texte ?
Alors, on parle d'un genre, du même genre littéraire, ça c'est sûr, avec des codes qui n'ont pas, des codes narratifs qui n'ont pas tant bougé que ça. Hein, c'est-à-dire que la rencontre d'une jeune femme innocente avec un héros à la fois brutal, mystérieux, mais qui se transforme en douze agneaux à la fin du récit, ça vaut toujours. Hein, c'est toujours le cas dans la romance contemporaine. Ça nous vient d'ailleurs de, et ça Redouet en parle dans le livre, hein, de ce qu'elle appelle la romance gothique, qui disons qui naît au début du XXe siècle. L'étalon de la romance gothique, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, et la romance va au XXe siècle va largement se construire sur les codes établis par la romance gothique. Mais alors, ce qui a changé quand même aujourd'hui par rapport aux romances dont parle Redouet, donc au début des années 80, c'est aujourd'hui on parle de new romance, donc c'est le vocable utilisé par les éditeurs surtout, hein, c'est une catégorie éditoriale qui désigne un peu le renouveau connu par la romance depuis les années 2010 et, pour le faire court, depuis la parution de 50 nuances de Grey, 50 Shades of Grey, qui a vraiment redynamisé tout le marché. Et donc,
mais sans bouger profondément les codes.
Sans bouger profondément les codes, mais en ajoutant des spécificités. Donc aujourd'hui, par exemple, la dimension érotique de la romance est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus frontale qu'elle ne l'était dans les années 70-80.
On y reviendra d'ailleurs, parce que ces témoignages de lectrices dans l'étude dont on parle aujourd'hui, vont même jusqu'à dire que la description précise des actes sexuels n'est pas du tout ce qui les intéresse, alors qu'aujourd'hui, la dimension érotico-pornographique et au contraire des zooms un peu plus graphiques sur les pratiques sexuelles, c'est hyper important dans la lecture de cette new romance.
Oui, mais en entretien, les lectrices continuent à dire que c'est pas ce qui les intéresse, bien sûr. Mais les romans dont parle Redouet comportent déjà en fait des scènes explicites, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est complètement généralisé. 50 Shades of Grey, c'est une romance érotique, puisque l'érotisme, la description des scènes de sexualité occupe beaucoup de place. Et globalement, la sexualité occupe plus de place aujourd'hui que dans les années 80, même s'il y avait des collections plus spicy que d'autres, plus chaudes que d'autres, y compris chez des éditeurs historiques comme Harlequin, par exemple.
Et alors, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que peut-être que cet ouvrage de 1984 a participé à ouvrir aussi des études sociologiques en France, une université qui s'est ouverte très progressivement, pas beaucoup, mais à l'étude de cette littérature populaire, féminine, la lecture des Harlequins. Ça a un peu semé quelques graines, cette étude de 84 de Redouet ?
ça a semé quelques graines, mais quand même de façon très éparse, puisque la tradition sociologique en France, assez orientée vers la sociologie bourdieusienne, en fait, pour ce qui est de la sociologie de la culture, ne s'est pas massivement, intéressée aux objets de la culture populaire et aux pratiques culturelles populaires, et encore moins aux pratiques culturelles féminines. Il y a quand même quelques sociologues qui se sont...
Moi, j'ai eu comme enseignant Bruno Pecchignot, qui avait consacré une étude à la lecture des Arlequins.
Absolument. Bruno Pecchignot, mais c'est un peu un ovni, dans le paysage de l'époque. Il sort son livre donc sur la littérature sentimentale au début des années 90, si mes souvenirs sont bons. Il y a Bruno Pecchignot, il y a Dominique Pasquier, qui nous a quittés il y a peu de temps, et qui connaissait très bien les écrits de Redouet, et qui utilisait cette approche de la culture populaire, de la culture sentimentale, notamment dans sa superbe étude sur Hélène et les garçons et la réception adolescente d'Hélène et les garçons.
Voilà. Absolument, je lis ça. Oui. Moi qui ai passé tellement d'heures devant Hélène et les garçons.
Ouais, non, c'est
justement, les années 80, parlons-en aux États-Unis. J'ai dit à très grands traits qu'il y avait une profonde modification de la condition féminine pour la classe moyenne aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus, peut-être, pour que toute la saveur de l'étude de Redouet prenne son ampleur?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle enquête donc auprès ou au milieu, plutôt, on y reviendra peut-être sur le dispositif méthodologique, mais elle enquête au milieu de femmes de la classe moyenne, blanche, américaine, qui sont toutes mariées, enfin toutes ou quasiment toutes, mariées, mères de famille. Elles ont entre 25 et 45 ans. Et c'est vraiment... elles représentent vraiment cette Amérique chrétienne, blanche, des banlieues pavillonnaires. Et ces femmes, alors, elles sont en partie, pour une grosse partie d'entre elles, elles ne travaillent pas à l'extérieur, ce sont des femmes au foyer. Pour une petite partie d'entre elles, elles travaillent de façon salariée, mais elles sont en fait un peu prises en étau entre ces deux modèles dont vous parliez, c'est-à-dire entre le modèle traditionnel qui se construit à partir de l'après-guerre, en fait, basé sur ce qu'on appelle le male breadwinner, donc sur la division sexuée du travail stricte entre les hommes et les femmes.
C'est-à-dire les hommes qui vont à l'extérieur de la maison pour ramener le seul revenu financier, et les femmes qui font un travail domestique pas qualifié comme tel.
Exactement. Donc, elles ont d'un côté ce modèle, en fait, auquel elles correspondent beaucoup, puisqu'elles sont vraiment les produits de cette histoire-là. Évidemment, les aspirations qui sont ouvertes par le féminisme des années 70.
Et qui pénètrent ces couches de la population.
Mais de façon très diffuse, parce qu'en fait, elles sont éloignées. Elles sont plutôt éloignées de ces discours, de ces idées féministes. Mais évidemment, elles les connaissent, elles en entendent parler. Et d'ailleurs, dans le livre, Redouet dit qu'elles sont un peu furax contre ces féministes qui semblent dire que ce sont des idiotes, qu'elles sont aliénées et qui semblent dévaluer en fait la perspective féministe constitue pour elles une menace aussi, parce que elles l'entendent comme une dévaluation de leur place, de la place qu'elles
occupent. Et de leur ordre aussi.
De l'ordre dans lequel elles s'inscrivent et de ce qu'elles représentent, de la figure féminine, maternelle, qu'elles représentent. Donc elles sont vraiment coincées entre ces deux, enfin coincées, leur position.
Des frictions, oui, voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette position, cette position particulière informe, c'est la thèse de Redouet, informe leur pratique de lecture et leur appétence pour la romance.
Voir, et c'est ça qui est assez intéressant dans la lecture de cette étude, fait de la lecture un laboratoire pour tester justement cette espèce de tectonique des plaques à l'œuvre entre une condition féminine et une autre, les choses étant posées évidemment schématiquement. C'est qui cette Janice A. Redouet en 1984?
Alors, Janice Redway, elle, donc c'est une universitaire américaine qui fait sa thèse dans les années 70, qui porte sa thèse, elle porte sur la littérature populaire. D'ailleurs, elle a déjà travaillé sur la romance dans son travail de thèse, qui n'était pas spécifiquement, je crois, consacré à la romance, mais il y avait une partie qui était consacrée. Et elle est recrutée à l'Université de Pennsylvanie, dans un département de civilisation américaine. Et donc, elle est recrutée en tant que spécialiste de la culture populaire. Et dans ce département, ce qu'on fait, donc on est dans les années 70, et on commence à préconiser en fait l'utilisation de méthodes ethnographiques pour comprendre de quelle manière la culture populaire s'inscrit anthropologiquement dans la culture américaine. Comment culture populaire et identité américaine, disons, interagissent dans une vision assez anthropologique finalement de la culture. Donc c'est en tant que spécialiste de la littérature qu'elle commence à travailler sur les lectrices de romances, avec des questionnements qui, en fait, au départ, sont des questionnements d'une spécialiste de littérature, de littérature populaire. Elle se demande, quelle est la différence. Au début, elle veut éprouver la théorie de Stanley Fish sur les réceptions différenciées des différents publics, et donc elle se demande, est-ce que les lectrices de romance, elles perçoivent la romance de la même manière que les féministes, les universitaires féministes qu'elle connaît davantage elle-même que les lectrices de romance. Et puis petit à petit, au cours de son enquête, ce qu'elle découvre, la façon dont les femmes elles-mêmes parlent de leurs pratiques, etc., ça l'amène vers autre chose, ça l'amène vers des questionnements plus directement politique, et notamment vers des questionnements féministes. Et elle dit que, en fait, cette enquête est concomitante avec sa propre politisation féministe. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que
Elle raconte son propre cheminement intellectuel.
Exactement. C'est aussi un livre qui raconte ce cheminement intellectuel.
D'ailleurs, il est très narratif. On va y venir. La manière dont il est écrit, il est à la fois, et on va entendre dans un instant, un des outils scientifiques utilise. Il est à la fois scientifique, on sent que c'est vraiment des sciences sociales et que c'est une chercheuse, et en même temps il y a quelque chose de presque assez novateur déjà dans l'utilisation de la narration pour faire passer la connaissance. Quelle est la réception de ce livre-là en 84 ?
Alors, en 84, aux États-Unis, le livre fait grand bruit.
Dans le milieu universitaire, on va dire.
Oui, dans le milieu universitaire féministe. Mais disons que il fait parler de lui, et il fait parler de lui de façon assez étonnante. Moi, j'ai été assez étonnée de découvrir, justement, en travaillant sur la réception du livre, de découvrir la teneur des débats, parce qu'en fait, on accuse Redway de stigmatiser ses lectrices, parce que bon, on y reviendra peut-être, mais voilà, Redway, la grande question qu'elle pose, c'est est-ce que finalement ses lectrices, c'est pour elle un espace d'émancipation, la lecture et la lecture de romance, ou est-ce que c'est
un outil parfait de reproduction
exactement
de la culture patriarcale.
Exactement, est-ce que c'est le bras armé du patriarcat pour maintenir les femmes dans leurs conditions. Et donc cette façon de poser, disons, le débat de manière un peu schématique qu'a Redway de le faire, c'est pris par un certain nombre d'universitaires féministes comme une façon de stigmatiser les lectrices, de ne pas leur accorder finalement la réflexivité que ces universitaires leur prêtent. Alors,
mais ce qui est un peu mauvaise foi, parce qu'en réalité, quand on lit le texte, elle leur accorde tout à fait la possibilité de, au contraire, de penser, d'éprouver la complexité, d'éprouver y compris des positionnements ambivalents par rapport à ce qu'elle lit sur la question de la sexualité, de la violence, du rapport aux sentiments. Donc, au final, elle est plus nuancée que ce qu'on peut bien croire.
Oui, elle est absolument. Et en fait, disons, derrière ces débats très virulents hein, qui ont lieu au sein du féminisme académique des années 80. Il y a aussi des débats idéologiques, des débats théoriques autour de l'affrontement, notamment entre le marxisme, le matérialisme et d'un côté, donc le marxisme et le féminisme matérialiste d'un côté, et les cultural studies de l'autre, disons, qui ont pour vocation de dépasser justement la question de la question culturelle telle que le marxisme la pose, c'est-à-dire comme un instrument d'aliénation des peuples, d'aliénation des publics. Donc il y a derrière ces débats virulents, voilà, un débat théorique plus large qui dépasse en fait le seul enjeu du livre. C'est aussi une histoire de positionnement effectivement
dans le milieu universitaire, ouais, et dans le milieu intellectuel. Peu de réception, pas de réception en France, on est plus de 40 ans après. Est-ce que c'est le lot de tout ce qu'on dit être la recherche des women's studies, des cultural studies qui nous arrive très tardivement?
Oui, absolument. Oui, c'est vraiment symptomatique hein, de la façon dont la culture est pensée en France dans l'université, dans la recherche académique. Il y a quand même, faut être honnête, hein, il y a quand même... C'est-à-dire que c'est pas un livre qui passe complètement sous le radar. D'ailleurs, la conclusion du livre a été traduite en 2000, je crois, dans la revue Politics par Brigitte Le Grignou. Disons, le livre est pas complètement ignoré. Mais le fait qu'il ait jamais été traduit, à notre sens, c'est plutôt symptomatique, effectivement, de la façon dont les cultural studies, d'une manière plus générale, ont été reçues en France, c'est-à-dire avec beaucoup de méfiance. Voilà.
Et de retard, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est précisément de s'emparer de cette édition, je le précise, aux éditions de l'ENS, oui, pour en faire une sorte de renouvellement du laboratoire de réflexion et de recherche autour de ces questions-là. Oui. Un des outils qu'utilise Redway, c'est le questionnaire. Veuillez lire ce qui suit. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Je mène une enquête pour déterminer les habitudes de lecture des personnes qui lisent des romances. Le questionnaire est conçu pour découvrir vos attitudes personnelles et vos opinions sur les livres que vous lisez. Je vous demande de ne pas vous identifier de quelque manière que ce soit. Votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez répondre à presque toutes les questions en plaçant une croix dans l'espace approprié. Pour chaque question, veuillez ne sélectionner qu'une seule réponse, sauf indication contraire. Nous vous remercions vivement de votre coopération. Janice Redway, Université de Pennsylvanie. 1. À quel âge avez-vous commencé à lire pour le plaisir? 2. Quel était votre type de livre préféré en tant qu'adolescent? 3. À quel âge avez-vous commencé à lire des romances régulièrement? 4. Quand vous étiez enfant, votre mère ou votre tutrice lisait-elle des romances? 5. Combien de romances lisez-vous chaque semaine? 6. Combien de livres autres que des romances lisez-vous chaque semaine? 10. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre comportement de lecture? 12. À quelle fréquence discutez-vous des romances avec d'autres? 19. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce qui vous décide généralement à lire une romance en particulier ou non? 21. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous faites lorsque vous réalisez que vous n'aimez pas un livre que vous avez déjà commencé? Etc, etc, etc. Nous qui commençons tous les jours le Book Club de France Culture par ce qu'on appelle un questionnaire lecture, c'est évidemment la régalade de voir ce questionnaire lecture qui est bien plus long, qui dans sa version finale comporte 53 questions. Delphine Chedaleux, à chaque fois il y a des possibilités de réponses multiples, A, B, C, D, E, F. On termine par « Pourriez-vous décrire brièvement ce qui rend les romances meilleures que les autres types de livres disponibles aujourd'hui ?» Pourquoi est-ce que c'est important à la fois de le reproduire en annexe de ce livre-là, et qu'est-ce qu'il nous apprend de la méthode de Redway?
Alors, c'est important de le reproduire parce qu'on a traduit le livre tel dans sa forme initiale, en tout cas dans sa version, son édition de 1991, donc qui reproduit en annexe les questionnaires. Donc, il était vraiment indispensable hein, de traduire aussi ces questionnaires. Donc c'est effectivement une partie du dispositif méthodologique mis en place par Redway, mais une partie seulement parce que donc Redway se rend donc dans une ville du Midwest américain qu'elle rebaptise Smithton.
L'anonymiser ?
Oui, pour l'anonymiser, ouais. Et qui est une assez grande ville, hein, puisque c'est une ville qui compte quasiment 900 000 habitants, mais qui est une ville pavillonnaire. Voilà. Elle dit que c'est une cité dortoir et que la plupart des gens vont travailler. Donc on suppose, elle ne le dit pas, mais on suppose que c'est une grande ville qui n'est pas très loin d'une autre très grande ville, d'un centre économique. Donc c'est plutôt une cité dortoir composée de banlieues géantes, de ces banlieues géantes américaines faites de pavillons individuels. Et donc elle se rend à l'été 1980, une semaine, dans cette ville. Elle a au préalable contacté une libraire en fait qui s'appelle Dot, sur laquelle je pense qu'on reviendra. Dot, qui est un peu une figure locale parce que donc elle travaille dans une librairie qui est située dans un centre commercial de cette ville et qui est d'ailleurs les centres commerciaux font partie intégrante du succès des romances à l'époque où écrit Redway. Ces chaînes de librairies qui ont ouvert dans les centres commerciaux participent complètement à la diffusion de ce genre littéraire. Donc Dot est libraire dans un centre commercial et elle signe une newsletter mensuelle où elle fait des recommandations en fait à ses clientes. Des romances qu'elle a lues, qu'elle a aimées, qu'elle a moins aimées, etc. Et donc par le biais de Dot, elle arrive à Smithton et elle rencontre en fait ses clientes. Elle fait des entretiens collectif, des entretiens individuels, elle observe Dot dans sa librairie avec ses clientes, elle a des conversations plus ou moins informelles avec Dot et ses clientes, et puis elle fait passer des questionnaires, effectivement, deux questionnaires. Donc elle se rend deux fois à Smithton et elle fait passer deux questionnaires différents parce qu'elle s'aperçoit après son premier séjour que son premier questionnaire n'était pas assez précis et n'avait pas anticipé la richesse des réponses en fait des lectrices.
Et de la réflexivité des lectrices.
Et de leur réflexivité. De leur réflexivité. Et donc, elle fait un deuxième questionnaire où elle précise des choses par rapport au premier.
Et ce personnage de Dot, qui est à la fois presque sa fixeuse sur le terrain d'études anthropologiques, devient aussi un personnage de la narration même de l'enquête et fait que c'est un livre qui a aussi une dimension, presque littéraire, en tout cas narrative, pour transmettre sa connaissance. On va continuer de parler de cette enquête juste après un extrait du deuxième album de Carola Mochia, alias La Nina, musicienne italienne. C'est un disque tout récent. Ici, le titre s'appelle Filia da Tempesta. Elle chante contre la peur, contre les promesses non tenues, aussi la colère d'une vie sans repos. Fille de la tempête.
Nuanda fa paura, trentotte ammazzata, a botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tambura, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì.
Sta femmina niente, mo va tutto cosa, e te non arraggio che non arrabosa, che non arrabosa. Ha dato la vita e ce l'ha nell'uomo, non
paure niente, 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 paure ni
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La lecture de romances renforce-t-elle la culture patriarcale et les systèmes de croyances qui la soutiennent, ou bien dote-t-elle les lectrices, s'absentant momentanément de leur rôle de mère et d'épouse, d'une forme de pouvoir, d'un laboratoire pour penser leurs désirs et ou leur exposition à la violence? Voici la question centrale d'un ouvrage publié au milieu des années 80 aux États-Unis, tout juste traduit en français, et dont les échos nous intéressent particulièrement au Book Club, au vu de la place qu'occupe aujourd'hui la lecture de romances dans les pratiques culturelle, notamment féminine. L'autrice chercheuse Janice A. Radway répondait à cette question en 6 chapitres partagés à étudier ethnographiquement, on en a parlé, un échantillon de lectrices, mais aussi et de près les structures narratives, le discours et l'idéologie à l'œuvre dans ces fictions. On continue d'en parler avec vous, Delphine Chedaleux, qui avait co-dirigé cette publication aux éditions de l'ENS, et on va écouter une femme qui s'est beaucoup intéressée à la pratique de la lecture chez les femmes. C'est Laure Adler, ici dans une archive de 2006, il y a 20 ans.
Je crois que pour les hommes, une femme qui lit est dangereuse parce que, par définition, elle peut s'approprier l'imaginaire qui est à l'intérieur du livre, elle peut s'approprier une idée de l'amour qu'elle n'a pas vécue dans sa vie réelle, elle peut s'approprier tout un monde de personnages, d'atmosphères, de senteurs, de sensualité, d'affranchissement de toutes les libertés, et qu'effectivement, entre le livre et la femme, il y a une alchimie secrète et un peu mystérieuse, et des noces qui perdurent maintenant depuis, le début du XIXe siècle, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, cette alchimie entre femme et livre est à ce point fascinante que aujourd'hui, les femmes sont encore les prescriptrices, les acheteuses des livres, y compris pour les hommes. Ce sont les femmes qui achètent pour leurs maris, pour leurs amants, pour leurs fils, pour leurs filles. Et que aujourd'hui en France, mais aussi dans de nombreux autres pays européens, ce sont les femmes qui ont un rapport particulier avec le livre et qui font ou défont la réputation d'un livre.
L'historienne et autrice Laure Adler, en 2006 sur France Inter, à l'occasion de la parution de son livre « Les femmes qui lisent sont dangereuses », peut-être pour évoquer, avant de parler la lecture de romance, Delphine Chedaleux, la place de la lecture, en fait, dans la vie de ces femmes que la chercheuse rencontre au milieu des années 80 et qui est finalement un des objets intéressants de cette étude, c'est-à-dire le rôle que prend la lecture en tant qu'acte dans ce processus intellectuel, dans ce processus de transformation qu'on décrivait en début d'émission.
Oui, et Redway, elle distingue analytiquement, hein, effectivement, l'acte de lecture en lui-même des récits propres à ce genre littéraire de la romance. Ce qu'elle montre de façon tout à fait intéressante et un peu contre-intuitive, c'est que le fait de lire, le simple fait de lire, pour ces femmes, constitue ce qu'elle appelle un acte de protestation douce. Parce que la lecture est pensée par elles, et elles sont tout à fait réflexives là-dessus, hein, enfin tout à fait claires dans la
conscience de le faire.
Ouais, dans la façon dont elles le formulent. La lecture, c'est une façon de se doter d'un imaginaire propre, de se soustraire aux tâches matérielles et affectives qui leur incombent en tant que mère, en tant qu'épouse, et de se construire en fait un espace d'intimité.
Concrètement, pendant qu'elles lisent, elles ne font pas toutes les autres choses.
Exactement. Non seulement elles ne font pas les tâches matérielles qui leur incombent, mais elles se soustraient aussi émotionnellement. À leur rôle familial, en fait.
Elle se soustrait, et Redway écrit bien, qu'elle se soustrait même pour expérimenter d'autres émotions. C'est-à-dire que non seulement elles ne sont plus dans le champ émotionnel qui est censé les relier traditionnellement à leur époux et à leurs enfants, mais donc elles ne sont pas là, mais en plus, elles sont ailleurs.
Ouais, exactement. Elles sont ailleurs. Redway dit que les relations humaines, sociales, affectives qui sont mises en scène dans ces livres leur servent aussi de cadre imaginaire en fait à des dialogues imaginaires qu'elles se construisent comme ça en lisant avec d'autres êtres humains adultes et en fait ces femmes elles ont pas tant que ça l'occasion de discuter avec d'autres êtres humains adultes. Là, Redouet, elle provoque des discussions quand elle y va, mais ces femmes, elles sont relativement isolées dans leur maison, dans leur pavillon de banlieue. Et d'ailleurs, Redouet, il y a des passages très intéressants là-dessus, dit que l'une des conditions féminines, l'une des spécificités de la condition féminine moderne, c'est d'être séparée des autres femmes, d'être séparée de ses sœurs, d'une certaine façon. Là où autrefois, le village, l'église, la famille, en fait, constituaient quand même des communautés féminines n'existent plus.
Hein, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette enquête anthropologique, elle recrée ce cercle de parole autour de Dot, grâce à Dot, cette fameuse libraire à la newsletter. Et il y a quelque chose qui se remet à circuler et qui presque refait communauté de lecture. On entendait dans la voix de Laura Adler l'hypothèse, la thèse qu'elle soutient dans son livre, c'est-à-dire la dangerosité. C'est-à-dire cet espace-là, cette indépendance d'esprit, ce dialogue même imaginaire, soustrairait d'une certaine manière ces femmes-là à un ordre dans lequel elles sont prises. Est-ce que c'est aussi le cas et la thèse de Redouet ?
Oui, et d'ailleurs, les lectrices qu'elle interroge, elles témoignent du fait que leurs maris et aussi parfois leurs enfants sont pas très d'accord avec cette pratique et trouvent qu'elles y passent trop de temps, qu'elles sont trop absorbées par leurs livres, etc. Il faut savoir que c'est des grandes lectrices. Hein, les femmes qu'elle interroge lisent plusieurs livres par semaine, certaines plus de 10 livres par semaine. Donc, c'est des grandes lectrices. Elles y accordent beaucoup d'importance. Redouet utilise le terme de dépendance. Ces femmes sont dépendantes à la lecture. Et donc oui, elles témoignent du fait que leurs maris sont souvent pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'elles mettent en place tout un tas de stratégies justement pour justifier cette lecture.
D'où l'idée intéressante de cette protestation douce, stratégie d'évitement, résistance passive ou résistance discrète. Mais vous le dites, avec ce mot-là utilisé par Redouet de dépendance, on entend quand même la question de l'ambiguïté. Et c'est toute la question centrale du texte et de l'enquête, à savoir est-ce que c'est une source d'émancipation ou est-ce que ça n'est finalement que la continuation de leur emprisonnement. C'est un peu ce que soulève Vincent, auditeur du Book Club. Il a lu l'enquête de Janice Redouet et il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Delphine Chaudaleux. Alors j'ai notamment été touché par cette idée que cette lecture puisse être un espace de respiration ou encore un refus temporaire de ces tâches matérielles et affectives qui pèsent sur les femmes, et ça m'a fait réfléchir autrement. Et en même temps, je reste un peu troublé par cette dimension de l'imaginaire sentimental, et bien qui peut parfois requalifier la violence en preuve d'amour. Et donc je me demandais, est-ce que pour vous, cette tension est constitutive du genre et donc inévitable? Ou peut-elle être vraiment dépassée, et notamment aujourd'hui? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Vincent pour votre lecture de cette étude. Je rappelle le titre, lire la romance Femme, Patriarcat et Littérature Populaire de Janice et Redouet. Vous montrez bien, et Redouet le montre aussi, que la question de la violence, sa mise en scène, vous disiez tout à l'heure que l'archétype du scénario, c'est plutôt une jeune femme, plutôt innocente, qui rencontre plutôt un homme plutôt violent, plutôt toxique, plutôt mal intentionné et qui va résoudre ou révéler sous cette violence quelque chose de beaucoup plus tendre, voire de très amoureux. Avec les outils théoriques du 21e siècle, en tout cas de ce côté-ci de l'océan, on pourrait dire que c'est purement et simplement des relations toxiques, donc pas des relations très enviables, pas très émancipatrices. Comment se résout cette question-là pour Redouet qui l'étudie ?
Alors, Redouet, justement, elle choisit de ne pas résoudre cette question. Hein. Elle choisit de répondre de façon ambivalente à la question fondamentale qu'elle pose entre, est-ce que la romance aliène ou émancipe ces femmes ? Ce qu'elle dit à propos de la violence, c'est que elle essaie de comprendre, en fait, et là, c'est vraiment la partie compréhensive de l'enquête, du texte, elle essaie de comprendre ce que ça signifie pour ces femmes. Et ce qu'elle cherche et ce qu'elle trouve en fait dans ces récits qui effectivement sont parsemés de violences, de viols notamment. Ce qu'elle montre, c'est que
avec deux catégories de viols, puisqu'il y a aussi vraiment des idées de très grande stéréotypation de, ça se dit ça, stéorise. Bref, des choses très archétypales et très répétitives, qui sont même rapprochées des mythes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le viol pur et dur, mais c'est plutôt un personnage secondaire, ouais. ou un viol avec 15 000 guillemets accidentels, et ça c'est le personnage principal, et qui va voilà, ne pas réussir à contrôler sa fougue, quoi, on pourrait dire comme ça. Ce qui est très problématique, comme évidemment, comme lecture du viol.
Oui, absolument. Et ce que dirait Douai là-dessus, c'est que en fait, il s'agit pour les femmes qui lisent de s'approprier cette question de la violence sexuelle. C'est pas elles lisent pas ça parce qu'elles désirent la violence sexuelle, contrairement à des théories qui postulent le masochisme de ces femmes, c'est pas du tout le cas. Elles lisent ces récits avec plaisir parce que c'est une façon pour elles de contrôler en fait, dans une sorte de safe place, c'est-à-dire dans un moment de lecture où elles sont seules avec le récit, d'une certaine façon.
Et donc pas en danger, concrètement.
Pas en danger. C'est une façon pour elles de contrôler ce phénomène, en tout cas d'avoir l'illusion, évidemment, de contrôler ce phénomène qui est par définition incontrôlable dans la vie physique.
Et elle témoigne aussi d'autre chose, c'est-à-dire que parfois ce sont des fictions qui leur permettent, par un effet révélateur et tout ce qu'on sait de la puissance de se trouver représenté dans la littérature, ou bien de révéler au sens propre des violences dont on ne se souvenait pas, ou bien de permettre par effet de miroir de prendre conscience de violences subies, ou bien par un effet de lecture et de répétition d'apprivoiser une violence qui sinon envahirait et serait parfaitement incontrôlable. Enfin, il y a vraiment l'idée que la lecture devient un endroit de réempouvoirment à l'égard de la violence.
Oui, et bon, ça, je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça, moi, c'est quelque chose que je constate beaucoup chez les lectrices que j'interroge aujourd'hui dans mes enquêtes, et notamment dans mon enquête sur Fifty Shades of Grey. Ça, c'était vraiment une dimension très importante de l'enquête.
Mais c'est-à-dire
Sur le fait que la violence du livre, les scènes les plus violentes et la violence qui émane d'une façon plus générale du livre a joué comme comme un effet déclencheur chez pas mal de, enfin chez plusieurs lectrices que j'ai connues.
Déclencheur de parole,
déclencheur de exactement de réminiscences, de souvenirs de violences vécues et déclencheur d'une espèce de crise existentielle où finalement ces violences reviennent sur le devant de la scène, quoi.
Radway en fait même ce moment de lecture comme une exploration, une prise de conscience. On parlait tout à l'heure de la manière dont le mouvement féministe arrive jusqu'à ces zones pavillonnaires éloignées éventuellement de l'ébullition intellectuelle et contestataire du féminisme des années 70. Et elle fait de la lecture de la romance un endroit où on peut se rendre compte que on est pris dans un système de domination patriarcale, que on subit telle ou telle violence, que on subit telle ou telle domination, presque un levier de prise de conscience politique.
Oui, alors voilà, ça c'est donc une des thèses fondamentales de Radway, c'est dire que au-delà de cette question purement de la violence sexuelle, la lecture de romance pour ces femmes, c'est une façon d'exprimer leur inconfort, l'inconfort de leur position au sein du patriarcat.
Voir leur frustration, voir leur déception ultime, voir leur mal-être.
Exactement, voir leur colère à l'égard du patriarcat. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est une littérature de compensation, puisqu'elles se complaisent, elles prennent du plaisir à lire ces récits dans lesquels l'agressivité, l'indépendance, voire la violence masculine est transformée, est toujours transformée au cours du récit en amour inconditionnel et en dévotion à l'égard de l'héroïne. Donc, ces récits sont une expression, voilà, de la colère des femmes. Mais
qui dit compensation dit pas révolution, Delphine Chedanier. C'est-à-dire que pendant qu'elles lisent éventuellement, elles ne changent pas cet ordre-là.
Exactement. Donc ça, c'est une partie de la réflexion et de la réponse de Redway. C'est de dire aussi que ces récits sentimentaux, finalement, ils offrent une réponse extrêmement problématique aux femmes parce que la seule réponse qu'ils leur offrent, c'est l'hétérosexualité. Mmh. C'est l'hétéropatriarcat, comme on dirait aujourd'hui, même si Redway n'emploie pas ce mot-là. C'est le nécessaire épanouissement et le nécessaire accomplissement féminin dans la relation hétérosexuelle.
Et le fait que ce soit possible dans la fiction, c'est-à-dire que oui, ça va mal, oui, cet homme est violent, oui, il est maltraitant, oui, il vous parle n'importe comment, oui, il vous viole, mais dans un second temps, il va se rendre compte que cette violence n'était que la couche qui recouvrait son propre mal-être à lui et vous aimer pour la vie, happy end et fin d'histoire.
Oui, c'est-à-dire que ça fait, en fait, ces récits font reposer la responsabilité, finalement, de la sexualité incontrôlable des hommes sur les femmes elles-mêmes. Et donc ça, évidemment, pour Redway, c'est éminemment problématique. Mais elle ne dit pas autre chose, hein. Elle le dit comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché par une partie des féministes de l'époque qui trouvent qu'elle exagère et qu'elle ne fait pas assez confiance aux lectrices. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi parallèlement à ça, c'est qu'il y a les récits, mais il y a la réflexivité des lectrices. Et donc, une partie des procès qui sont faits à la romance, d'érotisation de la domination, oublient un peu ou font semblant d'oublier que les lectrices, elles savent séparer le bon grain de l'ivraie. Les lectrices, elles ne sont pas dupes.
Et puis que c'est pris dans un discours. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'utilisation du questionnaire, mais il y a aussi tout ce qui va avec, tout ce qui se parle éventuellement autour des livres, tout ce qui se dit. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'étude de Redway, c'est qu'elle s'intéresse évidemment à la réception de ses textes, aux pratiques de lecture, elle crée cette situation de parole autour des textes, mais elle s'intéresse aussi à la structure des textes, donc on l'a dit, des scénarios répétitifs, des archétypes pour les personnages, et presque des attentes des lectrices, qui retrouvent à la manière d'un mythe et d'une structure mythologique de parcours de héros ou de dieux, des choses attendues. Elles sont rassurées par quasiment des tournures de phrases.
Ouais, Redway utilise les travaux de Nancy Chodorov, qui est une sociologue et une psychanalyste américaine, qui s'inscrit un peu dans une école de relecture féministe de Freud, ce qui est un peu étonnant pour nous en France, parce que c'est plutôt une tradition américaine. Et Chodorov parle de la façon dont les femmes sont construites dans la famille patriarcale, dont les filles puis les femmes sont construites. Elle dit que les femmes ont une structure psychique triangulaire qui est construite par le désir pré-œdipien pour la mère, qui, contrairement à ce que dit Freud, ne disparaît pas avec le désir œdipien pour le père. Et donc les femmes sont construites de cette façon. Pourquoi ? Parce que c'est la mère qui s'occupe de la petite fille, des enfants et de la petite fille, et que la petite fille s'identifie à cette affection, à cette cet amour inconditionnel que lui donne sa mère, amour inconditionnel qu'elle ne va pas retrouver plus tard dans l'hétérosexualité, puisque les hommes, eux, ne sont pas élevés comme ça. Les hommes sont élevés plutôt dans le rejet du sentimentalisme, du féminin, dans l'indépendance et dans le rejet de ce qui est féminin. Et donc, les romances, finalement, et c'est toute une partie de la réflexion de Redway, les romances rejouent cette relation tripartite. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les héros préférés des lectrices qu'elle interroge, ils sont à la fois spectaculairement virils et en même temps très féminin et avec des dimensions maternelles. Il y a plein de références en fait à leur caractère nourricier, affectif. Ils prennent soin des héroïnes comme une mère prendrait soin de son bébé, de son enfant. Et donc les romances offrent une réponse presque psychanalytique en fait au mal-être des femmes à l'intérieur de la famille patriarcale et à l'intérieur des relations conjugales hétérosexuelles.
Mais psychanalytique et fantasmagorique, c'est pour ça que c'est du côté de la compensation, c'est-à-dire que le côté plein, le côté partenaire hétérosexuel qui irait remplir la fonction maternelle, elle ferme le bouquin et elles ne l'ont plus.
Exactement, et donc c'est pour ça qu'elles en ouvrent un autre. Et c'est pour ça
d'où la dépendance à la lecture.
Voilà, c'est pour ça que Redouet parle de dépendance, parce que la solution proposée par les romans étant effectivement fantasmatique, c'est-à-dire que l'hétérosexualité, puisque le roman fonctionne là-dessus, l'hétérosexualité est offerte comme la seule finalement solution à leur problème, la seule façon de continuer à penser qu'elle trouve une solution à ce problème, c'est d'ouvrir un autre roman et de lire encore plus de romances. C'est donc le cercle de dépendance dont parle Redouet.
Vous parliez de votre étude contemporaine. On va écouter en 2024 deux lectrices de romances au micro de Quentin Lui, pour l'émission Zoom Zoom Zen sur Inter.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi vos prénoms ?
Mélodie.
Héloïse.
Vous avez quel âge ?
15 ans.
Et 16.
Ah, la new romance. Sur les réseaux, on en parle beaucoup. En général, il y a beaucoup de sujets qui nous touchent, des romans qui abordent des sujets compliqués que les adultes et les jeunes adultes traversent, comme le viol, les TCA, plein de choses. Avec les mots, c'est toujours différent qu'avec les images. Avec les images, c'est plus violent, plus choquant. Avec les mots, on ressent les émotions, peut-être qu'on n'a pas encore ressenti, qu'on veut essayer de découvrir avant de se lancer vers l'inconnu.
Ouais.
Sinon, je sais pas trop quoi vous dire.
C'est pas facile parce qu'il y a les parents à côté.
Franchement.
On est d'accord.
Et puis, la sexualité, c'est vrai qu'il faut l'aborder. À l'école, on l'aborde, mais c'est très scientifique. Avec nos parents, on l'aborde, mais forcément, on est gênés parce que c'est nos parents, même si on a des parents cool. Alors qu'à travers les livres, on peut découvrir de nouvelles choses qu'on n'a pas fait, peut-être des choses qu'on veut faire, et savoir si vraiment on veut faire ça ou si on préfère attendre.
Cet espace du livre, il est personnel, il est de vous à vous.
Oui, il n'est pas choquant, il n'est pas destructeur pour notre futur. Vraiment, c'est safe.
C'est safe, le mot d'une jeune lectrice avec son autre amie lectrice au micro de Quentin Lui sur France Inter. Ça revient à l'idée d'un espace sécurisant, sécurisé de lecture. Peut-être quelques mots sur la façon dont la lecture de cette enquête 1984 est un outil intéressant pour la chercheuse que vous êtes sur la lecture de romances contemporaines cette fois-ci.
Oui, Janice Redouet, elle m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant, et les modèles qu'elle met en place sont toujours opératoires. Cette idée de la safe place, elle est super intéressante parce que c'est vraiment quelque chose que moi je constate encore aujourd'hui dans mes enquêtes.
Elles en font même, ces deux jeunes femmes qui témoignent à ce micro, presque un roman d'apprentissage. Lire certaines pratiques sexuelles, ça nous permet de nous demander si on a envie d'essayer ça ou ça, ça nous permet éventuellement de déclencher un sujet de discussion avec des copines ou avec les parents, presque un outil littéraire de début de vie sexuelle et affective.
Oui, en tout cas.
Qui pourrait être super contre-intuitif, vu les schémas plus que discutables qu'on peut trouver dans ces romans.
Oui, c'est vraiment un espace d'expérimentation émotionnelle, la romance. C'est le cas des lectrices de Redouet, c'est le cas des lectrices que je rencontre aussi, d'expérimentation émotionnelle. En fait, la romance, elle n'a pas besoin d'être construite sur des schémas super féministes, super égalitaires, émancipateurs, pour être un espace de réflexion sur la sexualité, sur les affects. Et d'une certaine façon, elle problématise la sexualité telle qu'elle existe dans la vraie vie, dans la vie matérielle, comme contrainte. La sexualité féminine est de toute façon contrainte par tout un tas de normes patriarcales, hétérosexuelles. Et donc, ces contraintes, elles sont vécues, quoi qu'il en soit, par les femmes en particulier. Et donc, c'est intéressant de retrouver ces contraintes, la façon dont la sexualité féminine est contrainte. C'est intéressant de retrouver ça dans un roman, parce que la consommation du roman étant justement quelque chose d'intime, c'est une place, c'est un endroit et c'est un moment pour justement expérimenter émotionnellement à la fois les désirs, les fantasmes, mais aussi la manière dont ces désirs et ces fantasmes sont contraints.
Il y a quelque chose de très émouvant dans la façon dont Janice Redway se politise, évolue intellectuellement au contact des discussions de ces femmes parlant de leur lecture. C'est pareil pour vous. Les entretiens que vous avez avec les jeunes ou moins jeunes lectrices de romans sont aussi des espaces de parole nourrissants à tout point de vue.
Ah oui, oui. Alors moi, je ne suis pas moi-même une lectrice de romance. Je suis rentrée. La romance m'a percutée, avec une conversation familiale autour de 50 nuances de Grey quand c'est sorti. Et donc, j'ai fait la leçon à tout le monde en bonne féministe en disant que c'était n'importe quoi. Et puis, en rentrant chez moi, je me suis dit bon.
Voyons voir de plus près, quoi.
Bah ouais, c'est peut-être un peu problématique là ce que je viens de faire. Et c'est comme ça que je suis rentrée moi dans cette, que cet objet plutôt m'a percuté et que j'ai commencé à m'intéresser aux lectrices de romance. Donc c'est une expérience, la recherche que je mène depuis quasiment 10 ans maintenant sur les lectrices de romance, elle est complètement transformatrice.
Et puis par ailleurs, puisque vous décriviez avec Radway l'idée que la condition féminine et la condition problématique féminine moderne était la séparation des femmes, discuter entre lectrices de la lecture de romance est un espace de parole entre les femmes, donc un mouvement émancipateur.
Oui, oui, on peut voir ça en tout cas comme un levier d'émancipation et on peut le voir dans les espaces numériques qui sont dédiés à la romance et qui sont pléthoriques, voilà, et qui sont des espaces de discussion d'autre chose que de la romance en fait, de la condition des femmes.
Le book club continue. Et c'est l'heure de l'agenda du Book Club ici. Nous vous donnons des informations, des rendez-vous autour du livre et de la lecture. Le festival Hors Limite, le grand festival Hors Limite aura lieu du 27 mars au 11 avril prochain, créé par l'Association des bibliothèques du département de la Seine-Saint-Denis. Le festival se déplace au plus près des habitants dans une trentaine de villes du département ainsi qu'à Paris. Une centaine d'autrices et d'auteurs, d'artistes sont présents avec une programmation variée. Rencontres, projections, spectacles, lectures musicales, performances et ateliers. Les festivités commencent par une grande soirée d'ouverture le 27 mars à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. Ce sera une lecture musicale de Ce que le ventre dit avec la poétesse et slameuse Lisette Lombé, le rappeur Marc Namour et le musicien Jérôme Boivin. J'ai été voir le site internet ce matin, hors-limite.fr. Le programme est à découvrir par vous maintenant.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Est-ce qu'il y a beaucoup de musique dans la romance ou dans les romances, généralement ? Ça vous dit quelque chose ou pas, la présence de la musique dans les romances ?
Il y a parfois, ouais,
des petites scènes de bal, un petit disque qu'on
ouais, ou de la musique qu'on écoute, que l'héroïne écoute, etc. J'ai pas d'exemple précis, mais
bon. De toute façon, nous terminons ici tous les jours par le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditrices et auditeurs de jouer avec nous à chercher la musique dans les livres. On peut ou bien nous envoyer un mail à lebookclub@radiofrance.com ou bien passer par le compte Instagram. Cette fois, c'est Éléonore qui joue avec nous. Elle a choisi un extrait du livre La Petite Dernière, paru en 2020, signé Fatima Das. On peut notamment dire que ça a été adapté au cinéma par Afsia Herzi et que la comédienne Nadia Meliti a reçu le César du meilleur espoir féminin. Ma grande sœur, Anan, était plus que sûre que j'allais être journaliste. T'as trop une tête de journaliste, Fatima. On se demandait à quel âge on allait se marier, combien d'enfants on voulait avoir. Autour de 25 ans, toutes les deux, un garçon et une fille. Anan et moi, on se ressemble beaucoup. C'est ce que tout le monde dit. Petite, j'imitais son sourire. J'imite encore son sourire. Dehors, on nous a déjà confondus. Anan a 7 ans de plus que moi, mais elle fait plus jeune. Anan et moi, on avait l'habitude de prendre des photos ensemble. J'ai une photo de nous deux à Saint-Germain-en-Laye, dans la baignoire, sourire plein. Un soir, ma tante emballe mon pouce dans une chaussette pour que j'arrête de le sucer. Elle me dit que je vais avoir les dents de travers. Tu veux ressembler à Biyuna, c'est ça ? Je ne sais pas qui est Biyuna, mais je ne veux pas lui ressembler. Sur une photo, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Je porte un long t-shirt blanc qui me va trop grand. J'ai les cheveux courts. En famille, on regarde en boucle « Maman, j'ai raté l'avion », Mathilda, Édouard aux mains d'argent, Fifi brin d'acier, Madame Doubtfire. On écoute les mêmes musiques, gravées dans la roche, « Seven Days »,« Sans repère »,« Ces soirées-là »,« Les rois du monde »,« Oops, I did it again » ou encore « I'm out of love ».
Just show me the way to get my
Grand mystère de cette chanson que je connais donc encore par cœur, dois-je constater. Merci beaucoup, Delphine Chaudenet, d'avoir été avec nous. Lire la romance Femmes, Patriarcat et Littérature populaire de Janice Eyre Radway, traduit par Sarah-Louise Rayard, sous votre direction, Delphine Chaudaleux et Marine Lambalaise, aux éditions de l'ENS. Au son, c'était Anthony Thomasson à la réalisation, Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement à Lou Quevauvier aujourd'hui. Rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Laibegovitch. Je vais lui fournir le questionnaire lecture de Radway pour que vous puissiez y répondre.